La semaine dernière, on a vu le Nouveau Testament en introduction. On a parlé de thèmes et de choses choses qui concernent tout ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, on va regarder les quatre évangiles. La semaine prochaine, on va regarder plus en détail la fin de la vie de Jésus, la semaine de la Passion, la crucifixion et puis la résurrection. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus large et puis on se concentre sur ça la semaine prochaine. Les évangiles nous montrent l'accomplissement de l'Ancien Testament. On a parlé du fil rouge de la rédemption, on a parlé du Nouveau Testament et la Bible parle de Jésus comme étant le point central, l'apogée, le sommet de toutes les Écritures. Dans la vie de Jésus, on peut trouver les explications de la signification des rituels dans l'Ancien Testament, des alliances que Dieu avait fait avec le peuple, avec Abraham, avec Moïse. On peut voir l'accomplissement des désirs du peuple, des choses qui sont exprimées dans les psaumes, qui sont exprimées dans les proverbes, dans le Cantique des Cantiques, etc. Et on a parlé de toutes les prophéties qui parlent de Jésus et qui sont accomplies dans sa vie. On a mentionné deux versets qui nous parlent de ce fait. Il y a Jean 5, 39, où Jésus parle et il dit aux pharisiens, il dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Il leur explique que l'Ancien Testament, toutes les Écritures sont en fait des Écritures qui parlent de Jésus, de sa vie, de qui il est. Et ensuite, dans Luc 24, 27, il y a un épisode où il est dit « Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et là aussi, en fait, il reprend l'Ancien Testament et il va leur expliquer toutes les choses qui parlent de lui. Alors, on avait parlé, il y a les types, il y a des personnages qui font référence à Jésus. Tous les grands personnages de l'Ancien Testament, d'une certaine manière, font référence à Jésus et représentent un petit peu Jésus par avance. En fait, quand on divise les Écritures de manière générale, on peut dire que l'Ancien Testament, c'est Christ annoncé par la prophétie et par les types, par les symboles. Et c'est l'idée du Messie qui vient, il va venir. Les évangiles qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le Christ historique, c'est sa vie sur terre, c'est sa mort aussi. Le livre des Actes des apôtres, c'est Christ dans l'Église, qui vit à travers l'Église. Les épîtres, toutes les lettres, c'est un peu Christ dans l'expérience, dans la vie. Et puis on a l'Apocalypse à la fin qui est Christ dans sa gloire à venir. C'est le roi qui va revenir. Et la Bible nous dit aussi que les Écritures sont inspirées par Dieu, que c'est Dieu qui, par l'Esprit Saint, parle à travers des hommes. Et dans Jean 16, 14, Jésus dit, parlant de l'Esprit Saint, « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et là aussi, on a cette idée que l'Esprit Saint, en inspirant la parole de Dieu, parle de Jésus. Parce que le rôle de l'Esprit Saint, c'est de glorifier Jésus. J'avais mentionné les prophéties dans le cours sur le fil rouge de la rédemption qui s'accomplissent, tout ça, c'est des prophéties de l'Ancien Testament qui sont explicitement citées dans les évangiles comme étant accomplies. C'est-à-dire que c'est vraiment les évangiles qui disent Jésus a fait ça, et c'est en rapport, donc c'est vraiment explicite. Il y en a d'autres qui le sont pas dits clairement. Et il y a des choses comme le fait que Jésus allait être de la famille de David, qu'il allait naître d'une vierge, qu'il serait né à Bethléem, qu'il vivrait en Égypte, en Galilée, à Nazareth, qu'il serait précédé par quelqu'un comme Élie, à savoir Jean-Baptiste, que sa naissance causerait le massacre des enfants à Bethléem par Hérode, qu'il s'occuperait de sauver aussi les païens, qu'il guérirait beaucoup de gens, qu'il enseignerait en parabole, qu'il serait rejeté par les dirigeants juifs, qu'il ferait une entrée triomphale dans Jérusalem, qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, etc., etc. Donc il y a toutes ces choses qui sont explicitement citées dans les évangiles. Alors on ne va pas regarder en détail toutes ces prophéties, mais c'est des choses qui sont intéressantes à garder en tête et qui, quand on lit les évangiles, c'est toujours bon de se rappeler ces choses. En regardant les évangiles, je vais vous donner un peu pour chaque évangile, quelques points similaires. Qu'est-ce qu'il y a comme thème, comment Jésus est représenté, à qui l'évangile s'adresse. Et en fait, on trouve des significations par différentes choses dans la Bible. On va en parler, mais il y a des représentations un petit peu du caractère de Jésus dans différentes idées. Alors il y a on va voir Jésus comme étant un roi, comme étant un serviteur, comme étant un homme et comme étant Dieu. C'est les quatre évangiles qui nous le présentent sous cet aspect-là. Et en fait, les commentateurs, en regardant ces choses, voient des parallèles avec des visions de l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse, notamment dans Ézéchiel 1:10 et puis 10:14. Et dans Apocalypse 4:7, il est question d'anges qui ont des têtes avec quatre visages. Et les visages, en fait, c'est un visage de lion, un visage de taureau, un visage d'homme et un visage d'aigle. Et on associe ces visages à ces quatre caractéristiques de Jésus. L'idée que l'homme, c'est l'homme. Le taureau, c'est un petit peu le serviteur qui est utilisé pour ce qu'il est capable de faire. Le lion, c'est le symbole du roi. Et l'aigle, c'est l'idée de Dieu qui est au-dessus du monde. Et ces quatre visages qu'on voit dans ces visions sont aussi des symboles qui représentent les quatre tribus différentes d'Israël. Et dans Nombre 2, il y avait des positions autour du tabernacle. Et en fait, c'est les quatre tribus en question étaient ceux qui étaient autour du tabernacle qui représentaient. Et les commentateurs, alors c'est là aussi, on peut venir à la Bible vraiment en regardant tous les aspects, toutes les choses, tous ces symbolismes, et trouver des choses qui nous parlent. C'est toujours difficile de tout faire en une heure, mais c'est vraiment très intéressant, et c'est des études qui sont très riches. Les tribus en question ici, c'est Judas, Ephraïm, Ruben et Dan. Je voulais juste le. Donc, ces tribus ont aussi ces quatre symboles comme étant leur symbole de tribu. Et on n'a pas le temps de le regarder, mais ça a un intérêt par rapport à notamment aux généalogies de Jésus. On va en parler brièvement, mais dans le Nouveau Testament, on nous donne plusieurs généalogies de Jésus et d'où il vient. Donc je voulais le mettre avant, vous l'expliquer avant de nous plonger dedans. Matthieu, le premier évangile dans la Bible, nous présente Jésus comme étant le Messie et comme étant le roi. Matthieu nous présente une généalogie de Jésus qui est considérée comme la généalogie légale, qui passe par Abraham et qui nous montre la lignée de Jésus par son père Joseph. Donc ça nous donne un aspect pour le peuple hébreu, la généalogie légale en quelque sorte, c'était par le père, et c'était ce qui importait. Mais l'objection qu'on peut faire à ça, c'est que a priori, si Jésus est né d'une vierge, c'est que Joseph n'a pas été impliqué, à part d'être le père légal de Jésus. Et ici, l'idée, c'est que cet évangile. Alors, Matthieu, c'était un des apôtres, c'était un collecteur d'impôts Jésus avait appelé à le suivre, et c'était un juif. Et cet évangile est écrit dans l'idée pour les juifs, pour leur expliquer, voilà, Jésus, c'est vraiment le Messie, le roi que vous attendez. Et par rapport à ça, c'est important de dire, sa généalogie passe par Joseph, parce que c'était la généalogie pour un roi, légalement par le père, etc. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire que Matthieu, c'est l'évangile qui nous dit, le Messie qui était promis est bienvenu. Regardez les références, quoi. On voit en fait que sa généalogie ici commence à Abraham, en passant par David et jusqu'à Joseph. Donc c'est le père de la nation d'Israël, puis le plus grand roi, David. Et c'est vraiment écrit pour les juifs, c'est écrit avec le plus, par rapport aux autres évangiles, le plus de références à l'Ancien Testament et aux prophéties, pour dire, c'est vraiment celui que vous attendiez, c'est vraiment celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, l'évangile, on voit par exemple, on va regarder, parce que ça a un petit peu son importance, le premier miracle, c'est un lépreux qui est guéri. Ici, ça a une importance parce que pour les juifs, la lèpre représentait le péché, représentait un petit peu la condamnation de Dieu. Et c'est l'idée qu'il peut guérir, que Jésus les guérit du péché. Le livre finit avec la résurrection. Par rapport à ce que je vous disais, les représentations, la tribu représentée, c'était Judas, c'était le lion, donc c'est l'idée de roi. On va voir que les différents évangiles ont différents styles un petit peu prépondérants, et le livre de Matthieu s'attarde beaucoup sur l'enseignement de Jésus. Vous connaissez peut-être le sermon sur la montagne. C'est vraiment complètement développé dans Matthieu. Il y a un autre discours qui s'appelle le discours sur le mont des Oliviers, où il parle de sa deuxième venue. Il y a un autre discours sur le royaume de Dieu. Et les autres évangiles mentionnent parfois ces choses, mais de manière beaucoup plus brève. On voit que le sermon sur la montagne, c'est plusieurs chapitres, vraiment développés avec beaucoup de détails, beaucoup de choses. Et on dit notamment que c'est l'évangile qui contient le plus de paroles proportionnellement de Jésus. On dit que 60% du livre, c'est les paroles de Jésus, ce qui est le plus pour les évangiles. Et donc c'est vraiment cet enseignement qui reste, et ça avait son importance pour le peuple juif qui était habitué au rabbin, à ce style d'enseignement du peuple, et ça caractérise ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu. Le mot clé, c'est accomplissement, parce que il leur explique que Jésus accomplit l'Ancien Testament. Il accomplit les prophéties, il accomplit plein de choses. Et c'était ce qui était important pour le peuple juif, même s'ils l'ont rejeté après. Pour eux, ils attendaient le Messie et ils avaient toute la liste de signes et de choses qu'ils cherchaient à voir. Mais Matthieu essaie de leur expliquer, voilà, c'est ce qui arrive dans la vie de Jésus, et on voit notamment dans ces deux citations que je vous ai données au début, Jean 5 et dans Luc 24, que Jésus va leur expliquer en fait que les Écritures, l'Ancien Testament, parlent de Jésus. Et on le voit plus tard avec les apôtres et notamment avec Paul, qui essaye souvent de parler aux Juifs en leur disant « Mais voilà, si on regarde les Anciens Testaments, ce qui est écrit, on voit que ça s'accomplit en fait dans la vie de Jésus. » Le verset clé, on pourrait dire que c'est Matthieu 4, 17. C'est toujours difficile de choisir un verset qui caractérise tout un livre, mais il dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Au niveau du plan du livre, on pourrait le diviser. Alors, pour faire un plan, il y a toujours plusieurs manières de le voir. Hein. C'est toujours suivant comment les choses sur lesquelles on s'attarde. On pourrait dire que les quatre premiers chapitres, c'est l'introduction. On a sa généalogie qui est présentée. On a son baptême, quand il va voir Jean-Baptiste. Ensuite, il a la période dans le désert avec les tentations. Ensuite, il y a une grande partie avec son ministère en Galilée, des chapitres 5 à 18, avec les chapitres 5 à 8, on peut dire que c'est un message en 10 parties, c'est ce sermon sur la montagne. Ensuite, les chapitres 8 à 10, où il y a 10 miracles qui sont racontés. Ensuite, les chapitres 11 à 18, où il est rejeté 10 fois par différentes personnes. Et puis, la dernière partie, c'est l'apogée en Judée. Et on a les chapitres 19 à 25, la présentation du roi, avec son entrée à Jérusalem, avec des choses qui se passent avec ses disciples. Ensuite, 26 et 27, la crucifixion, et le chapitre 28, la résurrection. Une autre manière de voir le livre, c'est encore une en trois parties un petit peu similaires. Et ce serait de dire qu'on a une présentation du roi, des chapitres 1 à 4, une proclamation du roi, des chapitres 4 à 16, où Jésus enseigne le peuple, où c'est plus général, et ensuite des chapitres 16 à 28, où c'est la passion du roi, et où on voit Jésus qui enseigne ses disciples. Dans tous les évangiles, on a, surtout les trois premiers, on a une division où il y a un ministère public où Jésus s'adresse à tout le monde, et à partir d'un certain moment, il se concentre surtout sur ses disciples. Et ce moment qui constitue le moment charnière, c'est un moment à Césarée où Jésus demande aux disciples, il est avec les disciples, il leur demande « Qui pensez-vous que je suis ?» Et on a cette déclaration de Pierre qui dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et ce moment, dans les évangiles, surtout les trois, Matthieu, Marc et Luc, on voit qu'il passe d'un ministère plus public où il guérit, où il parle à tout le monde qui vient, à un moment où il se concentre plus sur ses disciples, et il commence aussi à se concentrer sur le fait qu'il va à Jérusalem et qu'il sait ce qui l'attend à Jérusalem. Ça nous aide aussi à bien un petit peu cerner les évangiles. Souvent, si vous regardez les plans que les gens peuvent, comment ils découpent les évangiles, il y a quasiment toujours ce point un petit peu milieu où ça change entre ces deux choses. Alors, je vous ai parlé de ces trois grands discours dans Matthieu. Il y avait le sermon sur la montagne où il a son enseignement moral, si vous en rappelez. Il y a le discours sur le mont des Oliviers, Matthieu 24 et 25, où il parle de sa deuxième venue. Il annonce un peu des choses de la fin des temps. Et il a un discours sur le royaume de Dieu, qui est au chapitre 13 de Matthieu. Alors, je vous parlais des tribus et des symboles qu'on peut voir, et le fait que c'est des études détaillées et riches sur lesquelles on peut longuement s'attarder. Là, avec ce chapitre 13, en fait, on voit, il va utiliser cette parabole pour parler du royaume de Dieu. Et en fait, on peut. Alors, comment vous annoncer ça? On peut faire une comparaison entre ces sept paraboles et les sept églises qui sont dans Apocalypse 2 et 3. C'est pour vous donner un exemple de vraiment tous les commentaires et les choses qu'on peut comparer et regarder les uns entre les autres. Dans Apocalypse 2 et 3, Jean a une vision et quelqu'un lui explique des messages de la part de Dieu pour sept églises différentes. Et ces messages, donc, c'est des églises dans des villes de l'époque, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et il y a à chaque fois un encouragement, vous faites quelque chose de bien, mais attention, il y a des choses que vous ne faites pas bien, vous devez corriger votre comportement. Si vous corrigez votre comportement, je vous promets de vous récompenser, et il y a une récompense à la fin. Et donc ces sept églises, on pense, représentent l'église de manière générale dans l'histoire de l'église. On pense, il y a des commentateurs, que ça représente peut-être aussi des périodes de l'église dans l'histoire, certaines caractéristiques de différentes périodes de l'église depuis l'époque de Jésus. Et on voit, alors on va pas s'attarder dans l'étude, je peux vous donner les correspondances, et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Mais c'est intéressant de voir encore une fois que ici Jésus parle du royaume de Dieu, et si on pense que le royaume de Dieu, c'est peut-être l'église sur terre en quelque sorte, alors il y a une correspondance avec le royaume de Dieu qui est décrit dans Apocalypse 2 et 3. Alors les sept paraboles, c'est le semeur, la parabole du semeur avec les quatre types de sol. Ça correspondrait à l'église d'Éphèse. Il y a la parabole de l'ivraie et du blé, ou de la mauvaise herbe et du bon grain, où il sépare les choses. Ce serait l'église de Smyrne. Il y a la parabole de la graine de moutarde qui correspondrait à l'église de Pergame. Il y a la parabole de la femme et du levain qui correspondrait à l'église de Thyatire. Ensuite, il y a la parabole du trésor caché qui correspondrait à l'église de Sardes, la perle de grand prix qui correspondrait à l'église de Philadelphie et le filet jeté dans la mer qui correspondrait à l'église de Laodicée. Alors vraiment, il y a des choses dans les évangiles, dans quasiment chaque chapitre, où on peut comparer avec d'autres passages de la Bible. Il y a vraiment des études parallèles qu'on peut faire, en plus des explications explicites. Dans Matthieu, il y a 53 citations de l'Ancien Testament, donc déjà, c'est direct, on peut voir pas mal de choses. Mais ce genre d'études parallèles donne vraiment plein d'opportunités pour regarder. Et on sait notamment qu'il y a toujours une symbolique avec les chiffres. Si, quand on voit le chiffre 7, on peut aller regarder et comparer. Voilà pour Matthieu. L'évangile de Marc nous présente Jésus, le serviteur. L'évangile de Marc ne nous présente pas de généalogie de Jésus. Et on peut se dire que finalement c'est normal parce que un serviteur, un esclave, n'a pas d'importance. On n'est pas intéressé de savoir la généalogie d'un serviteur. C'est l'évangile qui nous montre ce que Jésus a fait. Le livre est écrit par Marc. Avec, on pense, l'aide directe de Pierre. Marc ou Jean-Marc était de certains voyages avec Paul, et puis on en parle brièvement dans les passages, dans Actes notamment. Et lui écrit pour les Romains. Et l'idée, un petit peu pour se rappeler, c'est l'idée que le livre de Marc est fait surtout d'action et de puissance et de ouais, le mot clé c'est aussitôt ou immédiatement. C'est l'idée que ça enchaîne très vite. Dans Matthieu, quand on compare, il y a les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, sont très proches au niveau de ce qu'elles contiennent. Et on peut faire un tableau comparatif où on met et on peut comparer. Et en fait, on s'aperçoit que Marc, il enchaîne directement. Il commence, bon, il y avait Jésus et il a été baptisé par Jean-Baptiste et boum, et il rentre tout de suite dans l'action. Alors que dans Matthieu, ça annonce lentement, il y a la généalogie qui prend un chapitre, etc. Et c'est cette idée que les Romains, c'était un petit peu les Américains de l'époque. Ils voulaient du blockbuster, ils voulaient un truc où ça explose, où il y avait des... Ils voulaient de l'action, quoi. Ça aide bien à le retenir, c'est l'idée que voilà, il y a de la puissance, il y a de l'action, on ne s'attarde pas trop. On voit dans Marc qu'il y a souvent... Des descriptions pour expliquer la culture juive, où il dit bon, il a fait ça parce que dans la culture juive on fait ça quand il y a ça, parce que les Romains ne connaissaient pas tout de la culture juive. L'idée c'est regarder comment il agit, regarder sa puissance, et c'était parce que les Romains étaient impressionnés par la force et la puissance. Pour eux, pour prendre en considération Jésus, c'était ben, qu'est-ce qu'il a fait, quoi, qu'est-ce qu'il a, montrez-moi quelque chose de grandiose, quoi. Le premier miracle, c'est un démon chassé. Donc ça montre un petit peu sa puissance et ça finit avec son ascension au ciel. Le symbole, c'était le taureau, et la tribu d'Éphraïm avec le camp qui était à l'ouest. Et le taureau, c'est quelque chose de puissant, mais aussi qui est serviteur. On avait dit que l'enseignement caractérisait le livre de Matthieu. Ici, c'est beaucoup de miracles et beaucoup d'actes, des petits clichés, des petits aperçus de choses que va faire Jésus. Et le verset clé, c'est Marc 10, 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il vient pour servir. Le plan, alors ce que je vous disais par rapport à la division en deux parties des évangiles, on pourrait dire que c'est les chapitres 1 à 8 où on voit beaucoup de miracles et où c'est avec les foules. Et ensuite les chapitres 8 à 16 où il y a moins de miracles et c'est beaucoup centré sur les disciples. Un autre plan un peu plus développé, c'est le premier chapitre qui nous annonce Jésus par quatre voies différentes. On a une prophétie d'Ésaïe, on a Jean-Baptiste, on a une voix qui vient des cieux quand il est baptisé. Et on a un esprit impur. Jésus va chasser le démon et l'esprit va le déclarer comme étant Jésus. Ensuite, les chapitres 2 à 8, on a ses œuvres puissantes, avec différentes. Il a le contrôle sur les démons, sur les hommes, sur les maladies, sur les éléments extérieurs. Il va calmer la mer. Il va Et on voit que sa puissance s'étend à tout ce à quoi on peut penser. Il va choisir les 12. Ensuite, les chapitres 8 à 15 avec l'apogée, avec la transfiguration, et puis la dernière semaine de sa vie. Et le dernier chapitre 16 avec la conclusion, avec sa résurrection et son ascension. Dans le récit de Marc, on ne sait pas s'il a été présent quand Jésus a fait ces choses, s'il était sur place, mais l'idée qu'il avait une aide directe de Pierre, qu'il avait passé du temps avec Pierre, explique le fait que le livre donne beaucoup de détails, qui sont des détails qui ne pouvaient venir que d'un témoin oculaire. Il y a beaucoup de choses, c'est pas des on dit, c'est des choses que quelqu'un a dit, je l'ai vu faire, j'ai vu ce qui s'est passé, et c'est vraiment très vivant. Donc ça donne aussi le côté de l'action, des choses qui se passent vite. C'est un peu comme si quelqu'un filmait avec son appareil en témoin, quoi. Il est là et ça enchaîne. Luc nous présente Jésus comme étant le Fils de l'homme ou l'homme parfait. Luc va nous donner la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, le premier homme. Et va nous donner la généalogie passant par Marie, donc la généalogie vraiment par le sang, vraiment de Adam, le premier homme, jusqu'à Jésus. Et Luc nous montre plus ce que Jésus a ressenti. C'est un peu comme une présentation de regarder Jésus, regarder ce qu'il a, de ce qu'il a ressenti, de comment il a vécu. Vous voyez sa nature d'homme. Et Luc, c'était un compagnon de voyage de Paul, c'était un médecin grec, et on pense qu'il a écrit. Alors, il a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes. Et dans le début de ces livres-là, il écrit à un certain Théophile, en expliquant qu'il a fait une sorte d'enquête. Et on pense qu'il a fait cette enquête quand Paul était en prison à Jérusalem, qu'il aurait été. Et quand on lit le début de Luc, en fait, il dit, voilà, si vous voulez vous y tourner, c'est intéressant de le lire. Je l'avais déjà lu il y a quelques semaines, mais il commence en disant « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et on pense donc qu'il a peut-être été payé, même par financé par ce Théophile, pour faire cette étude détaillée en 2 tomes, où il a la vie de Jésus et ensuite le début de l'Église. On pense que c'était peut-être pour la défense de Paul devant César, parce qu'on sait que Paul, quand il est amené à Rome, il devait comparaître devant César pour être jugé, et que c'était peut-être une manière de dire, voilà, c'est Jésus, sa vie, ce qu'il a fait pendant sa vie, et ensuite ça a démarré l'Église avec les voyages et tout ce qui s'est passé. Voilà d'où viennent les chrétiens. Et l'idée, c'est donc que c'est écrit par un grec, puisque Luc est grec, et ce Théophile, c'était sans doute un grec, l'origine du nom. Et c'est donc l'idée que c'est écrit pour les Grecs, et les Grecs recherchaient l'homme idéal. Ils avaient cette recherche de la philosophie, cette recherche de ce qui était l'idéal, de la beauté, de la philosophie, de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Jésus est présenté comme l'homme idéal dans le livre de Luc. Le livre commence aussi avec un miracle, avec le démon qui est chassé. Pas le livre, pardon, le premier miracle qu'on voit. Le livre finit avec la promesse de l'Esprit Saint, ce qui est assez logique quand on sait que Luc a écrit ensuite les Actes, et que les Actes des apôtres, certains disent que c'est les Actes de l'Esprit Saint, en fait. Que c'est ensuite, quand on voit la fin du livre de Luc et qu'on enchaîne sur le livre des Actes, on voit qu'il y a une continuité, et donc c'est logique que ça finisse avec ça. Le style, c'est plutôt un récit avec beaucoup de détails historiques. Luc, c'était un historien qui a donné beaucoup de choses détaillées, qui avait un grand vocabulaire. C'est aussi l'évangile le plus long. Le verset clé, c'est Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce mot perdu est un petit peu le mot clé du livre. On peut en trouver d'autres, mais il y a l'idée qu'il vient restaurer ce qui a été perdu avec la chute de l'homme. Et ce mot perdu revient plusieurs fois, où on voit qu'il va chercher ou sauver les gens qui étaient perdus et qui avaient besoin de lui. Encore une fois, on peut diviser le livre en deux parties avec les chapitres 1 à 9 avec beaucoup de miracles et après de 9 à la fin avec beaucoup plus de paraboles et de choses qui sont enseignées aux disciples. Pour un plan un peu plus détaillé, on peut dire que les chapitres 1 à 3, c'est l'incarnation. On a deux annonces, deux mères qui sont choisies avec l'histoire avec Jean-Baptiste et sa mère et Marie. Et ensuite, donc deux naissances qui étaient attendues. On a du chapitre 4 à 9, le ministère en Galilée, avec les enseignements, les miracles, les 12 qui vont être envoyés. Les chapitres 10 à 19, avec le voyage vers Jérusalem. Et ensuite, les chapitres 19 à 24, avec le roi qui est exécuté. Après son entrée triomphale à Jérusalem, on a la Pâque, et puis la suite avec sa passion, et puis la résurrection et son ascension. Luc, je vous disais que c'est le récit le plus long, et il y a notamment beaucoup de miracles et de paraboles qui apparaissent que dans Luc, qui n'apparaissent pas dans Marc ou Matthieu. La semaine dernière, j'avais parlé du fait qu'il y avait débat ouvert sur quel était le premier évangile et comment ils en étaient venus à écrire ces choses. Et c'est notamment pour ces trois premiers, Matthieu, Marc et Luc, on peut faire des études comparatives. Et alors il y a des débats un peu sans fin sur qui a écrit en premier et qui a ensuite copié l'un sur l'autre, parce qu'il y a des choses qui sont quasiment mot à mot dans chaque évangile. On voit par exemple dans Luc, ce que je vous lisais au début, qu'il a dit que plusieurs ont entrepris de composer des récits, et donc on se dit qu'il y a peut-être même d'autres récits qui avaient été écrits pour communiquer la vie de Jésus mais qui ne nous sont pas parvenus. Et on voit, et ça a son importance, cette idée que ces évangiles que nous avons s'adressent à ces différents peuples à l'époque, aux Romains, aux Juifs, aux Grecs, et ensuite on va voir Jean qui s'adresse à tous les hommes, et c'est l'idée qu'on a quand même quelque chose de complet. Et c'est bon aussi de se rappeler ça par rapport à ce que je vous disais avec ces représentations, par rapport aux visions, par rapport à cette idée qu'il y avait des correspondances et que les quatre évangiles nous donnent une vue de Jésus qui est complète, qui est tout ce dont nous avons besoin. Si vous tapez un peu des recherches sur Google et que vous tombez sur des articles, il y a plein d'articles très intéressants mais où on peut se perdre dans des débats sans fin sur le... Alors il y a l'hypothèse d'un document Q qui serait l'origine du livre de Marc, et un autre document qu'ils ont intitulé le document M, et un autre qu'ils ont le document W, et on peut un peu se perdre. Et c'est intéressant d'un point de vue purement intellectuel de se dire que d'essayer de recouper, il compare les pourcentages de tous les livres, quels versets correspondent exactement, etc. Et du coup, quel vient en premier. Encore une fois, c'est des gens, des théologiens qui passent toute une carrière à écrire Mais c'est bon de se rappeler qu'on a une vue complète et suffisante avec ce que Dieu nous a fait parvenir. Jean nous présente Jésus qui est le Fils de Dieu dans sa divinité. Et on a une généalogie qui nous est présentée par Dieu. Jésus descend de Dieu en quelque sorte, qu'il est Dieu et que c'est lui qui s'est incarné. Il nous parle de son existence éternelle. Et Jean nous montre ce que Jésus était. C'est un petit peu comme si le livre nous dit, regardez qui Jésus était vraiment, voyez sa divinité. C'était Dieu. Et pour démarquer un petit peu le livre des trois premiers évangiles, il y a deux idées. La première, c'est que Jean a écrit cet évangile plus tard que les autres trois qui auraient été écrits plus tôt. Xavier avait d'ailleurs corrigé la semaine dernière, j'avais dit que la plupart, que tous les livres avaient été écrits dans le Nouveau Testament avant 70, et en fait, pour les livres de Jean, l'évangile de Jean et l'Apocalypse, on pense qu'ils ont été écrits plus tard, vers l'an 90. Et Jean, en fait, répond à des hérésies qui étaient déjà en train de rentrer dans l'Église. Et Jean va nous présenter Jésus, mais avec déjà une certaine interprétation. Là où les trois premiers évangiles nous parle vraiment un petit peu de manière historique. Bon, ben Jésus, il est allé dans telle ville, après il a fait ça, après il a guéri ce gars-là, après il a fait ça, après il a fait ça. Jean, il s'arrête et il va dire, Jésus, il a dit ça, et en fait, c'était parce qu'il était Dieu, et parce que ça nous permet d'être sauvés. Et ça nous présente un Jésus, mais déjà avec une interprétation, avec une explication de ce que ça a impliqué. Et à cause de ça, c'est un petit peu différent des autres évangiles, parce que Jean va plutôt choisir différents points pour expliquer certains points de la vie de Jésus et de qui il était pour appuyer dessus. Le livre est écrit pour tous les hommes, mais aussi pour l'Église, avec un grand E, pour corriger les problèmes qui rentraient. Et il y avait dans cette Église naissante beaucoup de problèmes où on commençait à mettre en doute soit l'humanité de Jésus, à dire c'était un peu un fantôme, en fait, il n'était pas vraiment physiquement homme, ou alors il n'était pas complètement Dieu, il n'a jamais dit qu'il était Dieu, c'était juste un grand homme, mais... Et donc ce genre d'attaque, Jean va dire non, non, et il va appuyer sur certains points, et notamment sur des déclarations de Jésus. On va voir après, il y a sept grandes déclarations de Jésus où il annonce des choses, où il dit « je suis quelque chose », et c'est quelque chose de très propre à cet évangile. Le premier miracle, c'est l'eau changée en vin à Cana. Le livre finit avec la promesse de son retour. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on sait que Jean a écrit l'Apocalypse après. Donc là aussi, il y a une continuité, un petit peu une logique par rapport à ça. Le mot-clé, c'est croire. Jean va souvent faire un contraste où il va dire les gens, ils ont soit cru à ce qu'il avait dit et qui il était, soit ils n'ont pas cru. Et il va souvent distinguer cette idée-là. Et le verset clé, c'est Jean...
Ouais.
Oui, non.
Si c'est pas ça.
Je dirais 20-31. Parce que Jean lui-même écrit pourquoi il a écrit. Il dit, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Ça aussi, oui. Non, pas
et c'est cette idée qu'il annonce ces choses pour qu'on croie en Jésus, qu'on croie qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et que par ce fait de croire, on ait la vie en son nom. Le plan... on a une introduction dans le premier chapitre avec la parole qui est devenue chair, l'incarnation aussi. Ensuite, des chapitres 2 à 12, un ministère public envers les Juifs, avec des signes, avec des déclarations de la part de Jésus, et ensuite avec des conflits avec les dirigeants juifs. Ensuite, les chapitres 13 à 17, avec plutôt le ministère privé envers les siens, encore une fois, où il va annoncer son départ et le don du Saint-Esprit. Ensuite, les chapitres 18 à 20, la tragédie de sa mort et puis son triomphe. Donc il y a le chapitre 18, c'est son arrestation et son procès. Le chapitre 19, c'est sa crucifixion et son enterrement. Et le chapitre 20, c'est sa résurrection. Et ensuite, le chapitre 21, c'est jusqu'à ce que je revienne. Les sept déclarations de qui il est, je voulais juste m'attarder dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Dans Jean 8, 58, il est écrit « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et ça fait référence à Exode 3, 14 et d'autres passages qui suivent, mais le premier où Dieu parle de lui-même comme étant celui qui est. Je suis celui qui est. On voit dans Jean 8, après cette annonce, les Juifs veulent tout de suite aller prendre des pierres et le lapider parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Et donc c'est un verset qui est important quand les gens disent « Oui, Jésus était un grand enseignant, était un grand homme, etc. Mais il n'était pas Dieu. C'est encore une fois le problème de la vie de Jésus. Si on ne veut pas accepter qu'il était Dieu, on a un problème, parce qu'on peut être d'accord avec certains de ses enseignements, faut être bon avec les pauvres, faut être machin, mais s'il disait « moi je suis Dieu et vous devez me louer », tout de suite c'est moins cohérent et beaucoup moins acceptable. Par rapport à cette déclaration que les Juifs avaient très bien compris, il y a ces sept autres annonces de « je suis » qui, pour les Juifs de l'époque, aurait tout de suite fait penser à des choses de leur culture, de l'Ancien Testament, et on va les regarder ensemble. Jésus, dans Jean 6, verset 35, dit « C'est moi qui suis le pain de la vie ». C'est répété à 41. Je suis le pain descendu du ciel. Et il se compare en fait à la manne. Donc là, on va avoir encore avec ces déclarations, des explications de texte, en quelque sorte, de la part de Jésus, montrant que l'Ancien Testament, par les symboles, par les choses qui sont contenues, parle de lui, parle de sa vie. Et pour les Juifs, encore une fois, c'était des choses qui allaient vraiment... quand il dit quelque chose comme ça, on voit qu'il réagit, c'est que ça ne pouvait pas... C'était des déclarations formidables. En plus du fait que c'est des déclarations qui ont un sens pour nous, même sans être juif, même à part, en lisant Jean, on peut prendre ces choses et en tirer des choses pour nous. Dans Jean 8, 12, Jésus leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Pour les Juifs, ça pouvait leur faire penser à la lumière de la colonne de feu qu'ils suivaient dans la nuit dans le désert. Et cette idée, la manière dont c'est présenté, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, les faisait sans doute penser à ça. Il dit ensuite, je suis la porte des brebis. Dans Jean 10, verset 7, et 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Etc. Ça, ça correspond à des annonces prophétiques dans, dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas noté la référence, il me semble que c'est Ézéchiel. Ensuite, dans le chapitre 10, juste après, au verset 11, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, etc. Il va détailler ce que ça, ça, ça implique. Et ça, ça fait penser, là aussi, à des passages dans l'Ancien Testament, et notamment le psaume 23, qui est quelque chose qu'on connaît même dans la culture plus commune. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est notamment dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans, dans Il faut sauver le soldat Ryan, il y a un personnage qui est un sniper, et quand il est dans certaines situations, il récite ce psaume 23 pendant qu'il est dans les, au milieu de la bataille. Jésus va ensuite dans Jean 14, 6. Dire « Je suis la résurrection et la vie ». Pardon, c'est « Je suis la le chemin, la vérité et la vie », ce passage-là. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de... Là aussi, qui est un verset, qui est clé et qui amène souvent à des discussions et à des difficultés avec les gens qui surtout aujourd'hui, veulent dire que toutes les fois sont égales et qu'on peut accéder à Dieu par, par différentes fois et différentes manières. Et on voit que Jésus a des déclarations fortes où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est... c'est un verset qu'il est bon à apprendre par cœur.
Il y a une référence que Dieu dans l'Ancien Testament.
Quoi ?
Jean 14, 6, il y a une référence dans l'Ancien Testament.
J'ai pas de référence, je sais plus. Il y a des choses dans les. Dans Ésaïe et dans Ézéchiel. Il me semble, mais je n'ai pas noté la référence. La déclaration qui suit dans, 15, dans Jean 15, 1 et 5, il dit « C'est moi qui suis le vrai cep. » Et ensuite, au verset 5, où il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Là aussi, je n'ai pas noté la référence, mais le peuple juif est noté est mentionné comme étant la vigne de l'Éternel. On voit notamment que dans les Jésus, en parlant avec les scribes et les pharisiens, va dire que vous vous êtes mal occupé de la vigne que Dieu vous avait confiée, parlant du peuple d'Israël. Et Jésus, la dernière déclaration, c'est Je suis la résurrection et la vie. Il faut que je recherche. J'ai pas noté la référence. Il faut que je recherche dans Jean. Et c'était la dernière déclaration. Mais on voit que ces déclarations s'accompagnent toujours d'une explication de la part de Jésus sur ce que ça impliquait. Et souvent, c'est assez explicite dans le texte. Le livre de Jean est souvent celui qu'on recommande aux gens à lire en premier. Et on voit que c'est celui qui est comme on disait, qui écrit pour tous les hommes, qui nous met face à la vie de Jésus et qui nous demande, qui nous dit croyez ou ne croyez pas, mais c'est cette idée de croire en Jésus pour avoir la vie. Et la manière dont Jésus est présenté avec ses annonces de qui il est, sont aussi là pour demander une prise de position, soit on croit, soit on ne croit pas, en qui il est. Voilà pour les évangiles.